Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place Urbain 5 de Mende en direct du marché. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour nous puisque 48FM fête ses 20 ans. 20 ans d'antenne, 20 ans de voix locale, d'information, de musique et de rencontres. Pendant une heure, on va revenir sur cette histoire, nos valeurs et l'avenir de la station dans un territoire comme le nôtre avec des invités qui la connaissent bien, qui la font vivre ou qui la regardent grandir depuis des années. Également rappeler en préambule que nous sommes sur la place du marché avec aujourd'hui un rallye. Donc si vous entendez, on est au bord de la route, si vous entendez de temps en temps des bruits de moteur, c'est normal, pas de panique, ce sont les aléas du direct. Juste avant, je le rappelle maintenant également pour ne pas oublier, si vous nous écoutez et que vous n'avez encore rien prévu pour ce soir, 48FM fête son anniversaire à Marvejols à l'issue de notre assemblée générale qui aura lieu à 16h. Une soirée musicale et festive aura lieu chez nos amis du café associatif du Sillon Lozé. Au programme dès 18h, le blind test le plus dur du monde. Et voilà, je vous l'avais dit, ça va arriver ce genre de choses, ne vous inquiétez pas. Je reviens donc au programme donc, de notre soirée musicale dès 18h, le blind test le plus dur du monde, avant plusieurs DJ sets de nos artistes qui animent les émissions musicales de la station. Ça va durer tout le long de la soirée avec buvette sur place, nous vous attendons nombreuses et nombreux. Retour au plateau avec moi autour de la table, plusieurs élus locaux pour cette première partie d'émission. Sophie Pantel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de Lozère, ex-présidente du conseil départemental et vous continuez de soutenir les médias locaux associatifs, notamment avec vos différents votes à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons. Également présente Emmanuelle Soulier. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Adjointe à la ville de Mende, en charge notamment de la promotion du territoire. Et à nos côtés également, Régine Bourgade, élue au conseil départemental sur le canton de Mende, Nord, et ex-maire de la commune. Bonjour à vous.
Bonjour à tout le monde.
Et puis pour représenter 48FM, Élodie Borloz, la présidente de l'association, est avec nous. Salut Élodie.
Bonjour tout le monde.
Et puis également le chef d'antenne, salarié de la radio, est présent depuis le début de l'aventure 48FM à Mende, le journaliste Ludovic Terrol. Salut Ludovic.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Il y aura également une seconde partie d'émission avec certains de nos bénévoles et nos partenaires. Et donc, avant de rappeler les missions et le rôle de 48FM, en plus des défis à relever pour les radios associatives à but non lucratif, on va revenir au commencement de la radio. Ludovic, 48FM fête cette année un double anniversaire, on a dit 20 ans et 15 ans. Toi qui étais là, peux-tu un peu revenir sur l'histoire de la station ?
Oui, bien sûr Thomas. Alors, c'est une radio qui a été créée par Thierry Serrière, dont on salue la mémoire aujourd'hui. Il a créé cette radio 48FM à Florac dans les années 2000. Puis il a créé une antenne à Mende en 2006, donc il y a 20 ans. Cinq années après, malheureusement, Thierry est décédé. Moi, à l'époque, je travaillais à Radio Margeride. Et sa compagne de l'époque, sa femme de l'époque, était venue me voir en me disant ben voilà, on a retrouvé tout un conseil d'administration sur Florac qui veut récupérer la radio à Florac. Et on aimerait que tout le travail effectué par Thierry ne soit pas perdu et que vous puissiez vous reprendre avec Radio Margeride la fréquence de Mende. Radio Margeride avait déjà une fréquence à Mende, donc on n'avait pas spécialement d'intérêt. Mais moi, je me suis retrouvé à me dire mais pourquoi pas remonter la radio à Mende pour qu'elle existe. Donc on est parti sur ce projet-là. Je suis parti sur ce projet-là. J'ai été fortement soutenu dès le départ par Alain Bertrand, alors maire de Mende et président de la région. Régine Bourgade était également présente pour nous soutenir à cette époque. On a créé un conseil d'administration et je salue là le premier président Jérôme Finiels, qui est enseignant, qui est parti depuis à Montpellier, qui était avec Céline Tosqueyes, alors qui depuis a divorcé, donc je m'excuse, j'ai pas en tête son nouveau nom de famille. Et donc on a recréé avec l'aide du FEADER, du Galter de Vie, tout un studio, tout un un panel de bénévoles et on a remonté cette radio avec Nicolas Peytavin qui à l'époque était journaliste à Radio Totem et qui est venu avec moi pour monter cette grande aventure et après on a été rejoints au fur et à mesure et la radio a évolué.
Avant peut-être que Elodie aussi nous parle un peu du statut, qu'est-ce que c'est une radio associative? C'est vrai que on connaît le nom mais pas forcément comment ça fonctionne. Peut-être la parole à nos invités. Ludovic vient de rappeler la genèse il y a 20 ans. On le disait tout à l'heure hors micro avant le début de l'émission. Certes, vous trois vous souvenez de ça il y a 20 ans, l'arrivée de 48 FM à Mende. Je sais pas qui veut réagir, Régine par exemple.
Alors si, moi je m'en souviens, mais je me souviens aussi qu'il y avait eu une radio qui avait été créée, qui s'appelait Mende Radio, et qui était encore plus vieille, puisqu'elle avait été créée par Jean-Louis Delpuech, qui était conseiller municipal à l'époque, et ça devait être dans les années 85, dont le studio était à l'étage de la salle urbaine 5. Ça a été une des premières radios locales, qui a été créé. Bien sûr que je me souviens de la création de 48 FM sur Mende, puisque effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'étais dans l'équipe de M. Bertrand.
Vous aussi, Madame la députée, il y a 20 ans, quand 48 FM arrive à Mende, c'est un souvenir, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous souvenez encore de ça?
Oui, et puis c'est vrai que lorsque Thierry avait lancé donc sur Florac, ils étaient logés dans une toute petite salle au CFPPA. Voilà, enfin c'était dans des conditions qui étaient quand même très simples. Et puis après, il y a eu cette extension sur Mende, sur Marvejols, et les uns et les autres, je pense à tous les élus sur le secteur sud au départ, avaient aidé sur nos PED, ce qu'on appelait PED à l'époque, c'était donc des dotations cantonales. Et puis ensuite, à partir de 2015, quand moi je suis devenue présidente au département avec toute l'équipe d'Angéline, qui était un peu plus sur patrimoine, mais on avait essayé de réfléchir à un mode de financement pour l'ensemble de nos radios en fonction des points de diffusion, pour trouver un système qui soit le plus juste possible, même si c'est jamais parfait entre toutes les radios locales du département.
Peut-être Elodie, on l'a dit, tu vas un peu pouvoir aussi revenir sur qu'est-ce que c'est une radio associative. C'est vrai que le nom parle à tout le monde. On connaît un peu l'histoire aussi de Mitterrand qui, dans les années 80, change de statut les radios pirates en radio associative. Mais comment on fonctionne, nous, ici à 48 FM, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent?
Alors, une radio associative, c'est déjà une radio qui fonctionne aussi avec des bénévoles. Donc, 48 FM a la chance et la rareté quand même d'avoir deux journalistes salariés, mais il y a aussi tous les bénévoles qui s'impliquent, qui produisent des émissions, qui font vivre l'association et la radio, et que je tiens aussi à remercier aujourd'hui tous les anciens bénévoles, les nouveaux et peut-être les futurs bénévoles. Une radio associative, c'est aussi une radio qui a un ancrage territorial fort, c'est une radio qui est pour et par les Lozériens pour ce qui concerne 48 FM. Une radio associative, c'est aussi une radio qui a des valeurs fortes. En tout cas, concernant 48 FM, c'est le cas. Et ces valeurs se traduisent dans les choix éditoriaux. Donc les thématiques principales auxquelles on est sensible et qui se traduisent dans les émissions et dans les informations, c'est la solidarité, l'égalité homme-femme, l'écologie et le développement durable, l'économie locale, la culture, l'éducation, et peut-être que j'en oublie encore. D'ailleurs, concernant l'éducation aux médias, mais je pense qu'on y reviendra aussi un peu plus tard, c'est vrai que c'est un des piliers de l'activité de 48 FM qui intervient auprès des jeunes, des scolaires, pour justement l'éducation aux médias et à l'information, et ça c'est aussi très important pour nous. Donc voilà, une radio associative, c'est tout ça, pour moi.
Ludovic, tu veux ajouter quelque chose sur comment on fonctionne en tout cas et quelles sont nos principales missions justement en tant que radio associative?
Oui, alors comme l'a précisé Elodie, on a une sensibilité, hein, chaque média a une sensibilité, donc tu as bien détaillé ce qui fait notre radio. On est une radio associative non commerciale, donc on dépend du fonds de soutien à l'expression radiophonique, on y reviendra avec Madame la députée, et donc on est une radio de proximité, de mission locale. On est là pour faire parler le territoire sur des sujets précis que vient d'évoquer Elodie. On est aussi une radio qui n'est pas une radio d'opinion, et la pluralité des personnes autour de la table le montrent bien. Madame Soulier, que je remercie, la municipalité a changé, tout le monde le sait. On continue à être soutenu. Et un grand merci de votre part. Et ça prouve aussi quelque part que, voilà, on est là pour faire parler les acteurs locaux sans forcément prendre parti sur ce qu'on va faire. Là où on prend parti, c'est qu'on a décidé, nous, quand on a monté la radio, par exemple, c'est de ne pas faire de faits divers. Voilà, on est une radio positive, on est un territoire hyper rural, il se passe des choses formidables sur notre territoire et c'est de ça dont on veut parler. Voilà, on n'a rien à envier à des villes plus grandes, on est capable de faire les choses et c'est ce qui nous intéresse de mettre en avant. Et après, donc, on a des partis pris forts de lutter contre les stéréotypes de genre, de promouvoir l'égalité homme-femme, l'éducation, la culture. C'est tout ce qui fait l'essence même de nos radios. Et après, pour revenir aussi sur un dernier point, quand on a monté la radio, on a décidé de produire 100% de nos programmes. Donc on en produit 90% à l'heure actuelle. Pourquoi ? On reçoit beaucoup de programmes de gens extérieurs qui sont de qualité, qui sont gratuits. On a juste à faire un courrier à la SCAM pour que eux soient rémunérés, mais on a refusé pour laisser le plus de plages horaires possible aux gens du territoire qui veulent faire de la radio. Donc on essaie de les former et qu'ils aient un espace pour pouvoir proposer ce qu'ils ont envie de proposer, et ça c'est aussi un parti pris fort de notre radio.
Et ça, on a plusieurs Lozériennes, Lozériens, Mondoises, Mondois qui participent à notre radio. Elodie Borloz, notre présidente, a parlé d'ancrage territorial fort. Emmanuel Soulier et puis Ludovic a effectivement bien fait de rappeler qu'on est en lien forcément très proche avec les différents acteurs territoriaux locaux, comme la mairie de Mende notamment. Ça se traduit comment justement ce partenariat ? Est-ce que pour vous c'est important de continuer de soutenir une radio locale comme la nôtre ?
Alors en effet, c'est très important de continuer à soutenir une radio locale comme la vôtre. J'ai vu les différents partenariats qui sont mis en place entre votre radio et la collectivité qui étaient précédemment, avant que nous arrivions déjà en place. Vous avez des partenariats pour l'éducation de la jeunesse, des partenariats pour des stages de radio, des partenariats avec le théâtre municipal, des partenariats avec le musée pour des podcasts culture et patrimoine. Donc c'est important parce que c'est vraiment un lieu de proximité. Et évidemment, le fait que nous ayons repris ce relais est important parce que le danger d'une radio comme la vôtre, avec cette proximité qui est un avantage, peut aussi être un lieu de rencontre entre le politique et la radio. Et là, il faut que chacun puisse garder son indépendance. Et cette transition s'est faite en douceur. Donc cette transition est preuve de l'indépendance de chacun.
Peut-être également un point à noter, c'est que on le dit souvent, mais est-ce qu'on peut aussi un peu le voir comme ça ? Moi, je dirais que, et là, après, je vais vous donner la parole à vous, élus. On parle souvent qu'une population informée, ce sont des citoyens et citoyennes éclairés. On est face à beaucoup de menaces, des fake news, les réseaux sociaux de partout. Avoir comme ça une gage de qualité avec deux journalistes agréés d'une radio comme la nôtre pour pouvoir, entre guillemets, certifier une information, c'est important pour vous, élus, peut-être Sophie Pantel.
Ah ben, moi je pense que c'est même essentiel quand on regarde au niveau national les attaques contre l'audiovisuel public avec commission d'enquête et avec un certain nombre de propos qui ont pu être tenus qui sont complètement faux. Quand on regarde les tentatives de déstabilisation de ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, et puis là on va rentrer en plus dans la campagne des présidentielles, et donc tous les candidats, quel que soit en fait leur parti politique, sont déjà pour certains des cibles, mais vont continuer évidemment à l'être. Donc c'est important d'avoir des radios locales sérieuses, et moi je veux vraiment souligner en ce qui concerne 48FM, c'est la qualité à chaque fois des débats de fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde de communication très rapide où chacun veut faire le buzz pour vendre son papier, son article, etc. Et je trouve que vous posez les choses, vous allez au fond et ça fait du bien. Voilà. En plus, vous êtes sur des sujets, moi, qui m'intéressent particulièrement. Donc voilà, je pense qu'en termes de pluralité, de liberté d'expression, voilà, ces médias de proximité dont vous faites partie sont essentiels.
Je vous remercie pour le compliment. Oui, vous voulez réagir?
Oui, la mise à distance par rapport aux réseaux sociaux. Une radio, c'est plus contrôlé, c'est plus visible. Donc, il ne peut pas être dit tout et n'importe quoi. Et ça met à distance un peu les réseaux sociaux qui vraiment ont pris trop de puissance ces temps derniers, qui sont nécessaires, mais qui doivent être modérés. Et les radios sont là pour modérer ces réseaux sociaux.
Vous, Madame Bourgade,
Oui, vous parliez de partenariat tout de suite. Là, je vous rappellerai également un partenariat essentiel pour votre radio, pour la pérennité de la radio, c'est la mise à disposition des locaux qui s'est fait dans le courant de l'année 2025, où la collectivité a bien compris votre engagement, votre engagement vis-à-vis de toutes les problématiques qui ont été citées tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'elle vous a mis à disposition des locaux pour pouvoir faire de façon pérenne votre activité de journaliste bénévole et permettre comme ça d'avoir un maillage assez conséquent au niveau du département et de pouvoir exercer sans être sans arrêt embêté par un problème de logement ou de disponibilité de locaux.
Élodie, tu voulais réagir, non? J'ai eu l'impression.
Oui, c'est sûr que le soutien, que ce soit du département, de la ville, et puis votre soutien qui était aussi sur les annonces de baisse du FSER à l'Assemblée, sont très importants pour nous parce que c'est ce qui nous permet de décliner au quotidien nos actions, de faire vivre l'association, de faire vivre nos valeurs. Et je parlais des bénévoles tout à l'heure, mais le soutien des institutionnels et des élus est également essentiel pour une radio comme la nôtre. Donc merci à toutes les trois d'être présentes et de nous soutenir.
Voilà, je voulais juste rappeler aussi le soutien de la région Occitanie avec la conseillère régionale qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est aussi un soutien essentiel.
Juste avant, Madame la députée Tripantel a rappelé que voilà, il y avait une certaine sorte d'indépendance. Est-ce que c'est pas Ludovic, après je vais vous donner la parole, Madame la députée, grâce justement à ce FSER qui nous permet un peu d'avoir un financement qui vient directement du ministère de la Culture et qui fait que on n'a pas forcément un financement 100% local et qui fait qu'on peut être aussi assez libre sur nos sujets, notre manière de voir le monde, la société et plus particulièrement le département de la Lozère.
Exactement, Thomas, et justement, je vais rappeler ce qu'est le FSER pour nos auditeurs. C'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc ça a été mis en place par François Mitterrand en 1982, donc juste après sa prise de fonction, pour éviter la prolifération excessive des radios pirates, comme il y en avait partout. Au bout d'un moment, il a tapé du poing sur la table en disant « Bon, là, ça devient n'importe quoi. Maintenant, je vais légiférer pour autoriser votre diffusion. Par contre, je vais vous demander de parler de certains thèmes qui me sont chers et qui sont donc ceux dont on a parlé tout à l'heure, l'éducation, la lutte contre les discriminations, le développement durable, l'économie locale, voilà, tous ces thèmes-là. Il faut savoir que l'FSER, ça représente à peu près 80% de nos financements. C'est le ministère de la Culture qui nous demande un dossier chaque année, un dossier énorme. On doit faire donner des attestations de toutes les personnes qui sont passées sur notre antenne en année N-1. Donc c'est un gros dossier qui nous prend des mois et des mois à construire, mais qui d'un côté aussi est très juste parce qu'on prouve vraiment les actions qu'on a fait en année N-1. Jusqu'à la venue de Nicolas Sarkozy, c'était inscrit sur une ligne budgétaire à part qu'on ne pouvait pas toucher. Il a décidé que ça allait changer, que ça allait être revu d'année en année. Et donc maintenant, on dépend du bon vouloir du gouvernement. Et ça fait 2 ans, c'est vrai, qu'on est attaqué dessus. Il y a 2 ans, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le gouvernement a voulu le baisser. Le gouvernement Barnier, qui n'est pas passé, a voulu le baisser de 30%, il me semble. Et Guillaume, voilà, 33%. Et l'an dernier, encore plus. Et on a réussi à mobiliser toutes les radios associatives de France à travers les locales, qui regroupent le CNRA et le SNRL, mobiliser tous les parlementaires de France pour qu'ils déposent des amendements, pour qu'on arrive à se sauver. Des amendements qui ont également été déposés par Madame la députée. Vous pouvez peut-être en dire un mot. Mais c'est on marche sur un fil et ça paraît très dangereux pour l'avenir de nos radios locales.
C'est justement effectivement pour ça que vous avez, pris votre rôle à cœur à ce niveau-là et voté pour qu'on continue d'avoir ce FSER qui soutient toutes les radios locales en France.
Oui, alors j'ai, comme l'a dit Ludovic, j'ai déposé des amendements comme de nombreux députés qui, quand on regarde ceux qui les ont déposés, sont des députés en fait issus des territoires souvent et qui comprennent l'intérêt et l'importance en fait de conserver ces radios locales. Donc vous avez rappeler l'histoire de ce fonds hein, qui sous mis en place par Mitterrand, sous Chirac qui n'avait pas bougé et sur lequel en fait on pouvait pas, c'était pas une variable d'ajustement au niveau budgétaire et l'objectif c'était vraiment de permettre la pluralité au niveau de l'expression sur chacun des territoires. Et c'est aussi une garantie pour vous d'une certaine forme d'indépendance puisque vous ne dépendez pas uniquement en fait de financements locaux. Et c'est vrai que bon, on a 3600 milliards de dettes, donc tout le monde cherche de l'argent partout. Et que ces trois dernières années, en fait, il y a eu un certain nombre d'attaques contre ce fonds pour le remettre en cause. Et jusqu'à, enfin, il y a deux ans, c'était carrément une suppression du fonds. Hein, donc on est monté au créneau très fortement les uns et les autres. Donc là, vous avez eu quand même des baisses sur le fonds. Donc ce qui nous a conduit avec d'autres collègues à déposer une proposition de loi pour revenir à l'ancien système de manière à ne plus être chaque année sur une forme d'instabilité pour vous, de ne pas savoir si vous allez obtenir ou pas ce fonds. Puis après vous avez des règles de répartition entre vous qui sont encore différentes mais que vous expliquerez puisque en fait le fonds est voté dans sa globalité au niveau national et ensuite il y a une répartition avec des règles spéciales. Voilà.
Puisqu'on parle des menaces, Ludovic, toi qui es chef d'antenne, question un peu toute bête, mais si 48FM, on ne le souhaite pas du tout, mais venait à disparaître, qu'est-ce qu'on perdrait? Parce qu'en fait, on est un peu unique dans le paysage lausérien. C'est vrai que si on enlève, donc voilà, on a des groupes privés de presse écrite, mais si on prend par exemple la radio, ça va être des groupes notamment entre Gare Lozère souvent, en tout cas des journalistes qui sont détachés sur des radios privées, je pense à nos confrères de Radio Totem. 48FM a un peu un rôle un peu unique dans ce cadre-là. Je pense aussi au fait qu'on est les seuls à faire un journal de 10 minutes 100% Lozère tous les matins, du lundi au vendredi. Mais il y a d'autres exemples comme ça. Qu'est-ce qui rend unique 48FM sur le paysage médiatique lausérien?
Mais que, comme tu le précises, et comme l'a dit Madame la députée en parlant du réseau France qui veut être privatisé, hein, faut le dire clairement, depuis quelques années, il faut se dire que c'est vraiment une attaque contre la démocratie. Si demain nous on disparaît, si demain le réseau public devient privé, le journaliste d'ici Gare Lozère disparaîtra. Il n'y a aucun intérêt pour un réseau privé d'avoir un journaliste en Lozère, il n'y a pas assez de population. Si nous on disparaît, il restera qui pour parler du local? C'est pas les radios nationales qui vont venir parler de Lozère, sauf quand il y aura un problème. Donc voilà, encore une fois, on parlait d'informations positives, ben ça sera fini pour nous. Il restera deux journaux, Lozère Nouvelle, Midi le Canconnet, Le Réveil Agricole, peut-être Radio Totem aussi, faut voir les financements, parce qu'ils sont financés aussi, c'est une radio associative, hein, commerciale mais associative, ben il restera plus personne en Lozère. C'est vraiment une attaque contre les démocraties de nos territoires hyper ruraux. Après, ce qui fait la particularité, mais peut-être tu vas y revenir après, c'est aussi tout ce travail qu'on fait d'éducation aux médias et à l'information. Si on ne fait pas ce travail-là, en Lozère, personne ne le fait.
Justement, peut-être on peut y revenir, effectivement, ça fera la transition entre le fait que si on disparaît, la population n'est plus informée. Je disais voilà que ça fait des citoyens, citoyennes éclairés en moins, mais c'est également le fait avec nos missions d'EMI, d'éducation aux médias, l'information. On peut le dire, Ludovic, on est le premier acteur départemental là-dessus. Tu peux un peu expliquer ce que c'est l'EMI et qu'est-ce qu'on va faire justement dans nos partenariats, dans différentes structures, même si Madame Soulier l'a déjà un peu évoqué avec la ville de Mende, mais c'est quoi l'EMI et qu'est-ce qu'on fait nous concrètement sur la Lozère?
Donc l'éducation média et l'information, c'est pouvoir aller dans les classes pour apprendre aux élèves déjà ce qu'est une information, ce qu'est un journaliste, comment on regroupe des sources, quelles sont les fake news, comment les combattre, comment se renseigner. C'est essentiel à l'heure actuelle et encore plus qu'il y a quelques années avec les réseaux sociaux où on voit tout et n'importe quoi. Et on est clairement le premier acteur de l'EMI parce qu'on intervient dans énormément d'établissements. Donc j'ai parlé pour l'année dernière, je n'ai pas parlé depuis la création des règles. Pour l'année dernière, on intervient au collège de Mende, au collège Bourillon, au collège Marthe du Perron de Langogne, au collège Marcel Pierrel de Marvejol, au collège Sport Nature de la Canourgue, à l'école des Terres Bleues de Fontanille, au lycée Émile Pétain-Vin de Mende, au lycée Notre-Dame. On intervient aussi avec le Belsagne, le centre l'ITEP, le DITEP de Belsagne. On a fait des stages avec l'Anti-Rouille cet été.
Je pense aussi au stage Erasmus+ avec le Rêve qui s'est conclu il y a 2 semaines.
Voilà, exactement, Thomas. Donc toute l'année on intervient et on est aussi parrain. Je suis parrain des 3 web radios des collèges de Marvejol, le Blémar aussi. On devrait y retourner l'an prochain, et Langogne. Donc ça, c'était une volonté de Monsieur Jean-Michel Blanquer à l'époque, qui voulait une web radio par établissement. Il n'a pas forcément donner les fonds pour les établissements, et bien sûr il a expliqué que nous on devait venir gratuitement pour aider les collégiens sur notre temps de travail, donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est essentiel pour la jeunesse, pour l'éducation, d'intervenir sur ces thèmes là et après on leur fait faire bien sûr des émissions radio, parce que voilà, nous on aime ça, et on se rend compte que finalement après une année de club radio, ils ont des facilités à l'oral, ils ont des facilités d'expression, ils ont moins peur de parler devant un public, ce qui les sert après dans toute leur scolarité. Et on parlait du thème de Belsagne, on a travaillé avec l'hôpital François Toscaïès auparavant, avec une psychologue, des éducateurs spé, ce qu'on fait un peu avec Belsagne, et on se rend compte que sur des jeunes qui ont des problèmes, au bout d'un an ils progressent énormément. Ils arrivent à aller vers l'autre, ils arrivent à devenir bénévoles d'associations. Et c'est vraiment une aide pour eux.
D'où l'importance d'intervenir dans les écoles primaires, comme vous le faites dans le cadre de Fontanier, du PV, sur les Terres Bleues, où ça met en garde les jeunes au tout début. Justement, ça fait de la prévention par rapport à ce qu'ils peuvent découvrir sur les réseaux sociaux. Et plus on commence tôt, et mieux c'est, et votre travail porte ses fruits, parce que tous les enfants en sont satisfaits, et les parents encore plus.
Alors je vais reprendre la parole juste pour dire que je pense qu'il y a un retour de spécial sur le rallye, donc si vous entendez toujours le bruit, c'est normal. Je rappelle, on est en direct du marché de Mende avec le rallye Terre de Lozère qui passe au pied de notre plateau radio, donc c'est normal s'il y a un peu des bruits de moteur. Je reviens à nos moutons, justement, Ludovic qui disait que voilà, on est là pour informer, apprendre à des jeunes qui vont savoir c'est quoi une source informationnelle, par exemple, de ne pas croire tout ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux. Madame Pantel ou Madame Soulier, vous qui êtes aussi au contact des populations les plus jeunes, mais aussi des adultes, vous vous rendez compte ça, la menace? Parfois on vient vous voir pour vous dire j'ai entendu ci, entendu ça, Madame Soulier.
Alors c'est en dehors de mes cadres d'élus, mais je participe à une association et je fais de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire, enfin c'est plutôt de l'aide aux devoirs, et j'ai beaucoup de ces jeunes populations et j'ai les relais de tout ce qu'ils se disent entre eux, de toutes les questions qu'ils se posent. Certains sont venus à vos côtés plusieurs fois, et il faut vraiment cette éducation à l'information, la vérification des sources. En tant qu'historienne, on sait que les sources, c'est la chose qui prime. Sourcer toujours ces informations et les recouper, avoir plusieurs sources, la pluralité et le point d'orgue qui permet d'avoir une vision transversale. Et souvent, quand justement on parlait précédemment de ces sources des réseaux sociaux, c'est il y a plusieurs, semble-t-il, sources, parce que c'est plusieurs sur plusieurs réseaux, mais au final, en reprenant le fil, on se rend compte que ça vient que de la même personne, et avoir cette vigilance pour pas détruire leur innocence, mais au moins leur donner les armes pour lutter contre ces sujets qu'ils ne maîtrisent pas.
Madame Pantel, vous aussi, en tant que députée, j'imagine que ce rôle de MI et d'éducateur à l'information auprès des plus jeunes notamment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ?
Je souscris totalement à ce qu'a dit Ludovic. Je pense qu'on est... c'est encore caché. Je pense que tout le monde ne se rend pas compte qu'on a un certain nombre d'attaques qui sont très structurées, contrairement à ce qu'on croit, contre notre état de droit, contre la démocratie. Ça commence par les attaques contre l'audiovisuel public. Moi, j'invite vraiment les citoyens, on va avoir le grand rendez-vous présidentiel. Je pense qu'avant de voter, regardez ce qu'ont voté les groupes politiques. et notamment sur l'audiovisuel, regarder qui a voté les amendements du RN qui proposent purement et simplement de supprimer l'audiovisuel public, et donc par voie de conséquence toutes nos radios locales sur les territoires. Et donc ça veut dire que le pluralisme c'est fini, il nous restera le groupe Bolloré, point barre. On aura beaucoup plus de mal pour aller chercher l'information. Déjà c'est difficile, même nous des fois on se fait prendre, quand on va passer des informations comme ça qui ont l'air d'arriver de sources sérieuses, même nous on peut se faire prendre. Donc les jeunes, n'en parlons pas, donc c'est vrai que le travail que vous menez pour les aider à se construire comme adultes éclairés, après ils choisiront évidemment l'orientation qui est la leur, et ils choisiront, mais en tout cas qu'ils soient en capacité de trier, de comprendre et de pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Donc pour moi c'est vraiment essentiel pour l'avenir de notre territoire et de la France.
Vous l'avez dit, c'est vrai qu'on n'a même pas évoqué l'IA et des fois les deepfakes qui peuvent nous faire croire, même nous, parfois personnes éclairées, des informations, et qu'effectivement il faut avoir les petits outils, les réflexes pour pouvoir s'en sortir et démêler le vrai du faux. Peut-être pour terminer cette première partie d'émission, un moment un peu plus convivial on pourrait dire, on va vous poser un peu des questions sur votre rapport à la radio, vos souvenirs des 20 ans sur 40 FM. Quand on préparait l'émission, Ludovic, toi tu m'as dit que par exemple tu te souviens très bien de Madame Soulier pour des émissions particulières quand Madame Soulier était guide pour la ville de Mende.
Oui, on a fait des émissions ensemble de découverte du patrimoine mandois, qui d'ailleurs ça nous a donné envie et l'idée après de continuer avec le Pays d'Art et d'Histoire et le Conseil d'Architecture, du Urbanisme et de l'Environnement sur des visites radiophoniques. C'est ça qui m'a fait moi le déclic de me dire mais ça marche en fait, c'est intéressant et c'est l'essence de notre radio, c'est le patrimoine local et c'est notre histoire. Vous parliez de l'histoire, on voit qu'il y en a certains qui essayent de réécrire l'histoire, hein, certains hommes politiques malheureusement, donc il faut ne pas oublier d'où on vient et qu'est-ce qu'est notre histoire. Et après moi dans les souvenirs je me rappelle mon première interview en arrivant en Lozère, c'était l'autrice Sylvie Germain au Parc à Loup sous la neige, moi qui arrivais de Montpellier, c'était un endroit magnifique, c'était féerique avec une autrice fabuleuse et ça je m'en rappellerai toute ma vie.
Également aussi en amont de l'émission, Madame Soulier, vous nous disiez aussi que si je vous demandais une anecdote sur la radio, la première, ça a été évoqué par Madame Bourgade, la radio avant nous qui était Radio Mende, vous y avez participé en tant qu'adolescente.
Voilà, en tant qu'animatrice adolescente avec un groupe d'amis, et nous avions une émission où on faisait des recettes de cuisine, on énonçait des recettes de cuisine, on faisait aussi des feuilleton radiophonique, ce genre de choses. Et l'émission avait un nom absolument ridicule, donc j'avais 14-15 ans, ça s'appelait T'énerve pas mon biquet, tout le monde veut du boudin. Donc si vous faites la recherche, vous ne trouverez sûrement pas cette référence-là. Et je me rappelle d'un fait particulier, c'est que nous avions décidé de faire un micro-trottoir un peu... pas tout à fait polémique, mais sur les parcs-mètres. Et je me souviens que mon père avait eu un petit agacement par rapport à ce micro-trottoir sur l'arrivée des parcs-mètres. Mais c'était une belle expérience. La référence musicale, c'était David Bowie, l'introduction à notre émission. Vous voyez, c'est des petits souvenirs comme ça, mais qui donnaient toute la richesse à ce genre de radio, pour le coup, avec nous, totalement amateurs.
Voilà, du coup, un attachement effectivement aux médias radio. Madame Pantel ou Madame Bourgade, vous aussi, qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce que la radio peut raconter que ne peut pas raconter par exemple la télé ou la presse écrite? Il y a aussi un peu ce côté féerique d'entendre des voix, deviner les visages derrière, ressentir les émotions à travers des sons. Qu'est-ce qui vous plaît dans le média radio?
La radio est plus près et plus proche de chacun que ne peut l'être la télévision. Déjà, il n'y a pas d'écran qui interfère et c'est un échange direct entre les personnes que vous rencontrez et vous-même qui êtes journaliste. Donc je trouve que il n'y a pas de filtre en plus, c'est des choses qui sont naturelles, qui sont peut-être pas faciles parce que c'est pas non plus très simple de s'exprimer à une radio ou même à la télévision, mais je trouve que ce travail-là d'être en proximité, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux.
Oui, ça a moins de montage, le média de la proximité. C'est vrai qu'on nous écoute le matin dans la voiture, en prenant la douche, préparant les biscottes au petit déjeuner pour la famille. Vous, Madame Pantel, qu'est-ce qui vous plaît dans la radio ?
Alors moi, je fais partie de ceux qui écoutent au petit déjeuner et dans la voiture, et je fais beaucoup de kilomètres, donc j'écoute beaucoup la radio. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est que contrairement à la télévision, on a le temps de développer des arguments, d'aller au fond des sujets. Voilà. Et c'est pas des grands principes ou des grands postulats où finalement il y a pas de place à la nuance ni vraiment à l'échange. Voilà. Enfin, j'ai fait quand même plusieurs fois et même de nombreuses fois des plateaux télé. Et on va vous retenir une seconde, on va vous couper votre phrase, ça va perdre totalement le sens finalement du propos global. Voilà. Et ça, la radio, on ne l'a pas et c'est top.
J'imagine aussi pour vous, élus locaux, que voilà, quand vous vous exprimez sur 40 FM, vous parlez directement à aux personnes qui ont voté pour vous, en tout cas aux citoyens,
aux habitants. Voilà, et aux citoyens.
Peut-être pour terminer cette partie d'émission, évoquer un peu les anecdotes, Élodie Borloz, notre présidente. Alors, toi, c'est assez intéressant comment, quand en préparant l'émission, on t'a demandé un peu qu'est-ce qui te plaît dans la radio. Tu as plusieurs anecdotes un peu croustillantes sur notamment ton attachement à ce média-là.
Oui, voilà. Donc déjà, 48 FM, enfin, pourquoi la radio ? J'avais envie de m'investir dans une association parce que j'évolue depuis longtemps dans le monde associatif à titre professionnel et personnel. Et 48 FM, à l'époque où j'ai créé la ressourcerie La Récup, m'avait invité sur une émission où j'avais pu présenter le projet, en parler. Et c'est vrai que ça avait fait un coup de projecteur sur le projet, ça m'avait permis d'expliquer ce projet, pourquoi, comment. Et me présenter au conseil d'administration de 48 FM il y a maintenant 3 ans, je crois, permettait un peu de donner un coup de main à ceux qui m'en avaient donné un il y a quelques années. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de m'investir à 48 FM. Et pourquoi la radio ? Parce que j'ai grandi dans un petit village en Suisse qui est un village qui a un émetteur international. Donc vous trouverez le nom de ce village sur tous les vieux postes de radio. Je fais le coup à chaque fois que je vois un vieux poste de radio et c'est dire qu'en ressourcerie, j'en ai vu quelques-uns. Et mon grand-père travaillait dans cet émetteur radio, mon père a travaillé aussi, et donc voilà, j'ai un attachement à ce média là et puis en termes d'anecdotes, c'est vrai que je vous ai fait sourire quand je vous ai raconté ça il y a quelques jours. C'est quand je rentre, donc je fais partie aussi de ces gens qui écoutent essentiellement la radio en voiture, et j'ai été en train de rentrer d'une journée de travail chez moi, et j'écoutais l'émission Visite radiophonique. Et j'étais tellement dans l'émission que j'étais sur la visite, je crois, du château du Tournel à l'époque, que j'ai loupé la route, l'embranchement pour rentrer chez moi, et que j'ai pris la mauvaise route, celle que je faisais tous les jours. Donc voilà, vraiment l'émission qui m'a emporté, emmené. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour.
Et justement, en plus, on aura après Nelly Lafont qui va pouvoir nous présenter les visites radiophoniques. Donc ça tombe bien en seconde partie d'émission. Sophie Pantel, députée de la Lozère, Emmanuel Soulier, adjointe à la ville de Mende, et Régine Bourgade, conseillère départementale. Merci à vous trois pour votre présence et le soutien apporté à 48 FM.
Il faut quand même qu'on vous dise bon anniversaire.
Oui, joyeux anniversaire.
Et remercier encore une fois les bénévoles actuels, mais aussi tous ceux qui se sont succédés au fil de ces années.
Tout à fait. Merci pour votre travail.
Et merci beaucoup à vous trois. Dans quelques minutes, nous continuerons cette émission en direct du marché de Mende. Mais juste avant, on fait une petite pause musicale.
Sweet Georgia boing dans les cheveux, je fume une cigarette, papier, maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse.
On poursuit ce plateau radio exceptionnel en direct du Marché de Mende pour fêter les 20 ans de 48FM. Dans une première partie, on était avec différents élus locaux, notre présidente, pour parler un peu de l'histoire de 48FM, nos valeurs, nos financements et voilà nos différents défis à relever au quotidien. Et pendant cette pause musicale, on a de nouveaux invités qui se sont rejoints autour de la table, des voix qui comptent et que vous entendez sur nos antennes. On commence avec toi, Nelly, bonjour.
Salut.
Nelly Lafont du Pays d'Art et d'Histoire Mende, Gévaudan et Mont-Lozère avec le CAUE de Lozère. On salue d'ailleurs sa directrice Caroline Dantrec qui nous écoute sûrement. Tu co-animes une émission sur 48FM, les visites radiophoniques. On en a parlé juste avant avec l'anecdote de notre présidente, mais on y reviendra justement après. Autre partenaire de la radio, Francis Charbonnel, professeur d'économie et responsable du BTS Communication du lycée Notre-Dame de Mende. Bonjour Francis.
Bonjour.
Et avec qui 48FM a le plaisir de collaborer. Et puis également présent Gilles Bègue, l'une des voix emblématiques de la station. Tu produis et présentes l'émission Orinoco. Salut Gilles.
Salut à tous, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Très bien.
Et puis enfin, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume Delorme, animateur bénévole et trésorier de 48FM. Mais pour ce plateau radio, c'est également ton rôle de secrétaire de l'ARA, l'Association Régionale des Radios Associatives, et ton rôle également de vice-président du CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives, qui va nous intéresser. Et bien justement, je vais commencer avec toi, Guillaume. Tu as entendu la première partie de l'émission avec nos élus sur le fonctionnement d'une radio et son rôle citoyen. Avec Lara, il me semble, vous venez de paraître une étude justement sur l'utilité des radios associatives. Avant de présenter ces résultats, est-ce que tu peux aussi nous présenter Lara et on parlera après de cette étude ?
Alors l'ARA, c'est une fédération hein, de radio. L'intérêt, effectivement, on est des associations, on a besoin de, aussi bah, de, d'être représentés. Et bah, voilà, Madame la députée disait, racontait un peu les difficultés de ces derniers mois, de ces dernières années. Donc effectivement, cette organisation fédérale, elle est importante, elle est historique. Hein. Depuis le début, en Languedoc-Roussillon, il y avait la Franck-Hélair, que j'ai eu le plaisir de présider à la fin de sa vie, mais on a tout de suite construit une nouvelle fédération régionale qui est l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, donc qui rassemble plus de 80 radios sur un peu moins d'une centaine qui existent en Occitanie. Et le choix qu'on a eu depuis le départ dans le cadre de ces organisations fédérales, c'est à la fois bah, de la représentation, du lobbying entre guillemets, mais plutôt voilà, de dire bah, de défendre, on va dire, un modèle, des valeurs, des choses qui comptent pour nous, mais aussi l'organisation de coopération entre radios, que ce soit à la fois sur des sujets techniques. Il y a du matériel de remplacement, par exemple, de secours en cas de difficulté. Il y a du conseil autour, par exemple, du déploiement du DAB+. On en a beaucoup parlé. Ça ne concerne pas encore totalement la Lozère. Ça concerne un peu la Canourgue et Saint-Chély qui ont vu arriver les multiplexes nationaux sur l'autoroute. Mais voilà, ces sujets-là, on a des activités autour de ça. On a aussi des actions autour des programmes qui sont mutualisés. Et vous les entendez à l'antenne. Le 180 secondes, hein, deux numéros par semaine de programmes d'activité avec le soutien de la région Occitanie qui est assez fort auprès de la fédération et qui permet de bénéficier à toutes les radios d'un certain nombre de projets, que ce soit des résidences radiophoniques, le 180 secondes, il y a eu les portraits de citoyens, itinérance, enfin voilà, il y a eu plein de séries, plein d'actions qui sont menées pour représenter les radios. Et effectivement, on a souhaité travailler en lien, enfin dans la discussion qu'on a eue avec la région sur les trois dernières années, on s'est dit que justement on sentait ces attaques un petit peu sur le modèle des radios et il nous semblait important d'un petit peu rénover le discours et on a travaillé autour de la question de l'utilité sociale. Et de se dire quelle pourrait être, comment on pourrait définir finalement l'utilité sociale des radios.
Et justement, après, je vais interroger nos invités sur aussi ce qu'ils pensent du rôle d'utilité sociale, parce que j'imagine que s'ils sont partenaires ou engagés à la radio, c'est que ces personnes-là croient à ce modèle-là. Mais vous, l'étude, qu'est-ce que ressort l'étude? On en a parlé aussi un peu avant avec nos valeurs, mais premières conclusions.
Il y a trois grandes idées, les trois grands principes d'utilité, enfin les trois grands axes d'utilité sociale qui ont été identifiés par l'étude, c'est un support à l'émancipation individuelle. L'idée que c'est dans les radios que vont venir des gens pour faire je vais y arriver, que c'est une pépinière de nouveaux talents, et je pense que avec par exemple nos contrats d'apprentissage à 48 FM qui aujourd'hui sont des journalistes du service public implantés, etc. Je pense que c'est aussi cette notion là on la retrouve bien. C'est aussi une façon d'ouvrir sur le monde, d'ouvrir la culture pour tout le monde, et ça c'est le projet aussi, c'est un des axes forts de notre projet associatif à 48 FM, un engagement aussi des bénévoles qui rend heureux, tout ça c'est dans cette émancipation individuelle. Le fait aussi de permettre à des gens qui n'ont pas forcément accès aux médias de pouvoir s'exprimer, aussi un élément d'émancipation. L'autre grand axe, c'est les catalyseurs d'énergie locale, en se disant que les studios des radios, les studios mobiles aussi comme aujourd'hui, c'est des lieux de rencontre, des cœurs de réacteurs, des rassembleurs de talents. Et puis le dernier volet, c'est porteur de voix de toutes et tous, donc effectivement une expression pour les voix du territoire, le relais des initiatives locales, les révélateurs aussi de talents artistiques. Alors c'est peut-être un peu moins le cas sur 48 FM, mais il y a des radios qui sont très orientées sur la nouvelle scène musicale, etc. Nous on diffuse évidemment des nouveaux titres, on est très impliqué sur le théâtre vivant, sur les festivals, etc. Mais voilà, il y a des radios qui ont des projets complètement organisés autour de la musique, et notamment ce week-end il y a la Ferra Rock qui fête, le week-end prochain, qui fête ses 35 ans aussi, donc voilà, une fédération de radios au niveau national autour des radios de musique actuelle, donc voilà, c'est un mouvement qui est dynamique et qui est vivant.
Avant de donner la parole à nos invités, Ludovic, quand Guillaume présente ses trois grands axes, forcément, ça te parle, les conclusions de ce rapport ?
Oui, complètement, hein, c'est exactement ça. Et ça a été un gros travail qui a été fait par l'Assemblée régionale des radios associatives, qui est un soutien essentiel pour nous au niveau national, parce que seul, on s'en sort pas. Et l'ARA et aussi la CNRA, parce que Guillaume est au sein de la CNRA, et dans encore une autre mesure, les locales, parce que devant les attaques répétées, la CNRA et le SNRL, qui sont les deux syndicats de radio au niveau national, se sont entendus. Donc ça, c'est aussi à noter, parce que c'est pas toujours facile, on le sait, que les différents syndicats s'entendent pour créer une nouvelle association qui s'appelle Les Locales et qui peut nous défendre.
Et puis peut-être donner la parole à nos invités. J'ai envie de commencer par toi, Gilles. On disait que tu étais une voix historique de la radio. Quand Guillaume parle d'émancipation, d'utilité sociale, de bonheur aussi, de produire une émission, ça te parle aussi, j'imagine.
C'est plus que me parler, c'est l'essence même de ce programme. C'est un programme qui aura, le 1er septembre, c'est dans deux jours, qui aura 21 ans, dont 16 sur 48 FM, et d'autres radios d'ailleurs qui partagent ce programme. Et aujourd'hui où on est, mon regard est dans une ère de plutôt où on zappe, on va très très vite, quelque chose que n'offrent quasiment jamais les radios, ce sont des espaces de réflexion. Aujourd'hui, tout le monde est capable de donner un avis sur tout, mais les espaces de réflexion, les longs espaces de réflexion, ce que m'offre 48 FM, puisque c'est un mensuel d'une heure, qui est diffusé et rediffusé, me permet depuis maintenant 16 ans d'offrir des réflexions sous tous les aspects. Mais donc, je ne vais pas parler de ce que j'ai fait précédemment, mais ce qui se propose pour le mois de septembre, octobre, novembre, pour la saison qui va s'attaquer, j'avais envie d'attaquer le problème des langues, des idiomes, des patois. C'est un sujet très avec plein de paradoxes, parce que on aimerait conserver notre belle, d'ailleurs on dit notre belle langue française. C'est amusant parce que on est 60 millions en France, mais 600 millions à la parler. Donc ça, c'est pas notre langue, c'est une langue française qui connaît des évolutions. Et je pense que réfléchir pendant une heure autour de la préservation des patois, l'enrichissement de notre langue, c'est quelque chose d'important. Dans la foulée, puisque le novembre, c'est le mois du doc, qui sera essentiellement tourné sur la condition de la femme, je me suis posé une question très amusante. Si je demande autour de moi, à tout le monde, moi y compris, de me citer des poèmes et leurs auteurs, je vais avoir Hugo, Verlaine, Rimbaud, plus proche peut-être Aragon, voilà. Aucune femme, personne ne me parlera de Parme Cerisaie, de Cécile Sauvage. Je me dis, mais d'où vient ce problème ? Donc j'ai travaillé longtemps pour voir qui furent et qui sont aujourd'hui les responsables de ce manque criant. L'éducation, les libraires, les maisons d'édition, et toutes ces questions auxquelles j'apporte aucune réponse, parce que je n'ai pas un savoir particulier, sont des questions que j'ai envie de poser pour qu'on puisse s'interroger à ce sujet.
Et ça montre un exemple effectivement avec Orinoco qu'on invite à suivre, et puis on a les émissions en replay pour pouvoir les écouter. On va revenir justement sur cette émission un peu plus tard. Je sais pas, Nelly, ou alors même aussi Francis, on a parlé tout à l'heure de l'EMI, sur cette utilité sociale de la radio. Qu'est-ce que ça t'inspire, Francis, quand t'entends parler de ce mot-là ?
Alors ça m'inspire beaucoup de choses, sachant que la radio est un média que j'apprécie particulièrement, surtout du point de vue de nos étudiants. Le fait de passer en radio, de s'écouter, d'entendre sa voix, de créer, monter, réfléchir sur les sujets, etc., rentre vraiment dans les problématiques que nous avons sur notre BTS communication et plus largement sur la prise de confiance des élèves dans la prise de parole, dans la création. Et j'ai vu des étudiants qui ont évolué au gré des projets que l'on a pu mener. Alors j'ai réfléchi, ça fait 15 ans je crois qu'on travaille ensemble, avec des projets divers où on a essayé différentes choses. On a essayé un petit peu de tout, en rédaction, en dehors, des micro-trottoirs, des émissions complètes, etc. Et voilà, ça nous a permis de de nous ouvrir, de parler de sujets qui concernaient les étudiants, sur lesquels ils avaient à cœur, où ils ont dû creuser un petit peu pour pouvoir mettre du contenu, aller au-delà des préconçus qu'ils pouvaient avoir, et je trouvais ça très intéressant. Et j'ai vraiment apprécié l'équipe de 48FM, la confiance que l'on a et puis les relations que l'on a. On s'appelle, on monte des projets, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et ça, c'est très très bien. Je pense que la radio a ce côté-là assez protéiforme où on peut s'adapter très rapidement à différents formats, à différents schémas, apporter quelque chose de nouveau, de neuf. Et je trouve ça très très bien. Voilà, et ce qui a été dit en préambule apporte énormément localement. Je suis quelqu'un qui est très ancré dans le local et j'apprécie vraiment le projet de 48FM d'être ancré sur notre territoire, de porter des projets de notre territoire essentiellement. Et c'est vrai que de mon côté, modestement, j'essaie de soutenir au maximum la radio 48FM et puis tous les projets qui peuvent être faits localement. Et que nous, à travers l'éducation nationale, dans mon établissement, on puisse faire des relations avec des acteurs locaux, c'est une grande force et c'est ce qui développe notre territoire.
Peut-être comme avec Gilles, Francis, je vais avoir plusieurs questions plus tard à te poser sur les différents partenariats entre 48FM et effectivement le lycée Notre-Dame de Mende. Nelly, dans une première partie de l'émission, on avait notre présidente Elodie qui a dit envoûtée, pris par l'émission Les Vides Radiophoniques, a loupé l'intersection pour rentrer chez elle. On parlait du bonheur des bénévoles, mais aussi le bonheur des auditrices, auditeurs. Toi, qu'est-ce qui te plaît justement dans cette utilité sociale de la radio? Et peut-être, première question, pourquoi ça te dit qu'avec le CAUE et 48FM, vous allez faire une émission comme ça où on va se balader dans les différents monuments du territoire, notamment de la vallée du Lot? C'est né comment ce projet-là?
Ludo en a parlé dans la première partie d'émission. Cette idée, elle est venue d'abord en premier de la proposition de faire une émission autour du patrimoine, et puis très vite est née surtout l'idée en fait de partir en visite, d'amener en fait l'auditeur avec nous en fait sur les routes et de se mettre vraiment en position de voilà, on vous fait visiter. Donc pour nous ça a été très très enrichissant et vraiment c'est un exercice hyper chouette à faire, parce que du coup ça nous... Pour nous, personnellement, je parle pour moi et au nom de Caro, du coup, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais ça nous oblige, en fait, à réfléchir autrement la médiation autour d'un monument, d'un site, puisqu'on doit faire découvrir un site que les auditeurs n'ont pas sous les yeux. Donc, c'est un exercice particulier. Et du coup, ça nous questionne beaucoup. On réfléchit autrement face à ce monument. Et voilà, c'est vrai qu'au départ, on ne pensait pas en faire autant, et ça va faire bientôt 6 ans. Donc voilà, je rejoins vraiment tout ce qui a été dit jusqu'à présent par Guillaume, Gilles et Francis. C'est vraiment la radio pour nous un vrai vecteur de lien social. Et surtout, la radio 48FM, on a retrouvé en fait avec la radio ce travail en réseau de partenariat qu'on a développé nous depuis 20 ans aussi, puisqu'on a un peu plus de 20 ans nous aussi. Et c'est pour ça aussi que ça a bien fonctionné, je crois. Ouais.
Peut-être faire réagir également Ludovic sur l'utilité sociale. Moi, quand je pense à ça, je pense directement à certains exemples de partenariats qu'on peut faire. Je pense à Hashtag, je pense aux minutes, les différentes minutes qu'on a avec des partenaires, où des fois on interpelle les citoyens en disant si vous avez tel problème, voici les solutions, avec des experts qui interviennent à la radio. Tu peux un peu comme ça nous présenter des exemples concrets d'utilité sociale sur le territoire lausérien de 48FM?
Voilà, c'est exactement ça, c'est de l'utilité sociale et des partenariats. On y est parce que seul on n'est rien. Et donc oui, on propose à nos auditeurs des chroniques d'une dizaine de minutes à 11h et 17h10 tous les jours, avec quasiment depuis le début l'agence départementale d'information sur le logement, des juristes qui vont venir donner des conseils concrets à nos auditeurs sur des questions posées au préalable, avec le conseil départemental de l'accès au droit, pareil au niveau des lois, avec les juristes du CDAD. Avec le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, et bien sur ces questions de stéréotypes de genre, d'égalité homme-femme, avec hashtag un gros partenariat pour donner la parole aux personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup d'émissions sur les handicapés où les gens parlent des personnes handicapées, et nous on a décidé de les faire parler parce que il y a personne qui parle mieux d'handicap qu'eux-mêmes, et c'est vrai que cette utilité sociale on la retrouve, mais parce que ça correspond tout à fait à notre sensibilité dont on parlait en première partie, notre ligne éditoriale finalement.
Eh bien, on va continuer l'émission avec un petit extrait que j'aimerais vous diffuser. Guillaume a parlé de l'un des rôles, c'est aussi de relever des talents des radios associatives, c'est ça aussi. Et ben donc voilà, on va diffuser une interview réalisée hier avec une voix qui a compté sur 48 FM. C'est la journaliste Adèle Chiron. Vous l'entendez désormais sur les différentes antennes de Radio France, comme Ici Héro, mais de 2020 à 2022, Adèle a été journaliste pour 48 FM. Et du coup, elle va un peu nous raconter son parcours et son expérience ici en Lozère. On poursuit cette émission en donnant la parole aux femmes et aux hommes ayant fait la radio avec un témoignage, celui d'Adèle Chiron. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Adèle Chiron, journaliste à Radio France, est passée par 48 FM de 2020 à 2022. On te reçoit pour les 20 ans de la radio, donc, et peut-être justement, avant de revenir plus profondément sur ton parcours au sein de la station, quel souvenir te revient spontanément quand tu repenses à ces deux années en Lozère ?
Ces deux années en Lozère, c'est avant tout des découvertes d'un territoire que je connaissais pas du tout, et en plus de le faire dans le cadre du journalisme, c'est incroyable parce que en fait, j'ai pu découvrir toute la vie de la Lozère, que ça passe de la politique à la culture, à travers une radio associative. Et ça, c'est le souvenir que j'ai avant tout, c'est de pouvoir découvrir un territoire très vite avec des gens incroyables.
Oui, c'est ça, c'est souvent un peu le lot du journaliste en général, mais parfois encore plus du journaliste radio, c'est d'arriver sur un territoire comme ça et en quelques semaines de se faire un réseau, devenir entre guillemets un expert de la vie locale. Toi, tu venais pas de Lozère, mais ça s'est fait spontanément.
Oui, je venais de l'Hérault, bon, pas loin, hein, à 2 heures d'ici, et en fait, c'est mon école à la base qui a fait un mail en fait à plusieurs personnes de l'école pour dire une radio associative en Lozère cherche un journaliste en alternance, et du coup j'y ai postulé et ça allait très vite et je me suis très vite entendue avec Ludovic Terrol, donc, et du coup c'est comme ça que je suis partie. Je me suis pas trop posé de questions, je connaissais pas le territoire, mais c'est justement ça, tu parlais du journalisme et de en quelques semaines connaître un territoire, et je me suis dit c'était l'occasion, quoi. C'était pas loin de chez moi, et en même temps je connaissais pas du tout.
Ouais, un sacré défi, j'imagine. Et justement, tu viens de le dire, 48 FM, c'est entre guillemets ta véritable première expérience, puisque c'était l'alternance avec l'école de journalisme, l'ESJ de Montpellier, en passant par 48 FM. Ma question, c'est en quoi ce passage justement ici a été formateur pour toi ?
En fait, on est polyvalent très vite. On m'a très vite demandé de faire un journal, par exemple. J'étais là, oh punaise, comment on fait ça ? Et j'ai été accompagnée très très vite et très bien, en fait, sur toutes les actions qu'il fallait faire pour la radio et pour faire vivre la radio. Et la radio associative, comme 48 FM en tout cas, ce qui était super chouette, c'est qu'on touchait à tout. À la fois, on faisait du journalisme, et puis des fois, on faisait de l'animation, c'est-à-dire qu'on animait des émissions d'une heure, et moi j'avais jamais fait ça avant, et ça me stressait un peu au départ, et c'est ultra formateur. Au début, le direct c'était vraiment pas mon truc, hein, je me rappelle, j'en avais très très peur, et puis avec Ludovic, on n'a pas le choix, il faut se mettre dans le bain très vite, et du coup c'est pour ça, et puis même on fait de la technique aussi, on fait un peu d'administratif, et puis on voit tout le quotidien d'une radio, et c'est ce qui est ultra intéressant, en tout cas pour un journaliste alternant. C'est ce que je conseille, c'est de faire de l'alternance dans des radios associatives, parce qu'au moins on peut toucher à tout, et puis même après se spécialiser.
Oui, peut-être pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent et également les gens autour de ce plateau en direct, explique un peu le fait que voilà, si on passe parfois par une radio du service public ou une radio privée, le côté animation pendant une heure en direct ou ce genre de choses, on le fait pas forcément. Même aussi le fait directement de faire son journal, être entre guillemets son propre rédacteur en chef, rédactrice en chef et devoir choisir ses sujets, ça c'est formateur.
Ah mais ça c'est clair, dans une radio, là je travaille à Radio France, je connais donc des jeunes journalistes qui passent par l'alternance à Radio France, on est cantonné à du journalisme de terrain avant tout, avant de faire de la présentation, et même l'animation on n'y touche pas. Et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs parce que ça permet de voir un peu tous les métiers et de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une radio, et quand on est journaliste, et puis même peu importe le métier qu'on fait dans une radio, je trouve que c'est important de toucher à tout. Du coup, être en radio associative, voilà, c'est l'avantage. On fait plein de choses très vite, donc faut être très vite autonome. Et ça, c'est très chouette, en tout cas. Et puis, en fait, on s'ennuie pas, du coup. Alors qu'en radio, alors j'adore hein, Radio France et le travail que je fais au quotidien. Mais en tout cas, pour débuter, moi, je dirais qu'une radio associative, c'est quand même très, très bien.
Et bah, tu viens peut-être un peu d'y répondre, mais l'une des questions que j'avais, c'est est-ce qu'il y a un réflexe journalistique, une attention liée à ton parcours en Lozère, à 48FM, aussi peut-être à la radio associative, qui te reste maintenant, toi, dans tes nouvelles aventures, et notamment dans ce réseau Radio France?
Alors, une des premières choses que je garde en tête, c'est les sujets, et là je vais me spécialiser entre guillemets, sur l'agriculture. Je ne connaissais pas forcément le monde de l'agriculture avant de venir en Lozère. Et donc on en fait plein en fait en radio en Lozère, hein, voilà. Et c'est quelque chose, c'est un réflexe que j'aime beaucoup donner quand je suis ensuite à Radio France, c'est de proposer des sujets sur l'agriculture parce que je trouve qu'on en fait, mais pas forcément assez, en tout cas pour moi. Et ça, c'est un des premiers réflexes que j'ai gardé. Et un autre réflexe aussi, c'est en fait, je sais ce que c'est qu'être un réalisateur et un technicien derrière celui qui gère nos voix, celui qui lance nos sujets. Et en fait, du coup, je comprends un peu mieux tout le fonctionnement de la radio, finalement, grâce à ça. Grâce en ayant fait moi-même de la technique à 48FM.
Et puis également peut-être, mais là c'est plus pour toi qui peut rester, on en a parlé en première partie d'émission, les défis que doivent relever les radios associatives avec le financement parfois particulier remis en question chaque année lors du vote du budget national. Ça aussi c'est quelque chose qui te reste, un amour, en tout cas une attention sur les radios associatives, ce réseau?
Ah mais totalement. Là, en plus, on a parlé effectivement, il y a eu une actualité là-dessus il n'y a pas longtemps, et j'étais la première lors de nos conférences du matin à en parler, à dire il faut donner la place, il faut donner la parole aux radios associatives pour expliquer ce qui se passe en ce moment, parce que c'est grave et c'est important en fait que ces maillons restent en place dans les départements, parce qu'en fait, les radios associatives, c'est celles qui font vivre le territoire et qui mettent en avant tous les témoignages et tous les gens du département, quoi.
Et peut-être pour terminer, on parle un peu de ton parcours après 48FM. Maintenant, on l'a dit, tu es à Radio France. Il me semble qu'en ce moment même, tu travailles pour Ici Héro. Et puis, tu vas après avoir d'autres projets, partir sur d'autres rédactions du réseau Radio France ?
C'est ça, en fait je suis pas en CDI, je suis en CDD, et donc on m'appelle pour me donner en fait des missions. Je dis oui, je dis non. Si je dis non, je suis pas forcément très bien vue, donc vaut mieux dire oui quand même. Et puis en fait, je pars dans toute la France. Il y a 44 locales en fait à Radio France dans les départements, et donc du coup je peux être amenée à travailler dans tous les départements de France, et même la Corse.
Et là, il me semble que la suite, ça va être la capitale, Paris.
Oui, jamais fait encore. Enfin, je connais Paris, mais en tant que journaliste, j'ai jamais fait, donc c'est une première, mais je serai au service web de France Inter, donc j'ai jamais fait, c'est une expérience qui est chouette aussi à Radio France, et qu'on peut voir des grosses locales, on va dire.
Adèle Chiron, journaliste à Radio France, est passée par 48 FM pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Merci Adèle pour ton témoignage et puis de participer comme ça à cet anniversaire, les 20 ans de la station 48 FM. On va te souhaiter une bonne suite de parcours et puis on espère te réinviter un jour pour réentendre ta voix sur la radio.
Ah bah avec plaisir et puis bon anniversaire.
Voilà, c'était un joyeux anniversaire de la part d'Adèle, Adèle Chiron. Merci à toi pour justement avoir pris le temps hier de répondre à nos questions. Ludovic, quand tu entends Adèle qui sera bientôt à France Inter et qui n'oublie pas ce que 48 FM lui a apporté, ça te fait penser à quoi ?
Ben, j'oublie pas surtout aussi ce qu'elle nous a apporté. Ça me fait penser, on était dans cette éducation média à l'information, pilier essentiel de 48 FM. Il faut savoir que on a pris un parti pris fort pendant 6 ans, c'est de former des jeunes journalistes qui étaient à l'école de Montpellier, l'ESJ à Montpellier, pendant 6 ans. Donc je pense aussi à Clara Vincent et à Léa Jacquet qui sont venus et qui, toutes les trois maintenant, Léa Jacquet qui est à France 3 Paris et Clara Vincent qui pareil est rentrée dans le planning de France Bleu, qui était à Ici Savoie aux dernières nouvelles, mais qui bouge un peu. Donc je pense à ça, je suis un peu nostalgique parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et on continue à s'appeler, on continue de se voir dès que possible, et on a arrêté cette formation après parce que ça commençait à être compliqué pour moi avec ta venue Thomas, et je suis ravi maintenant de bosser avec toi. On reste dans la continuité de ces personnes qui aiment la radio, qui aiment leur métier, qui aiment le journalisme et avec qui on défend les mêmes valeurs.
Donc apprendre le métier dans une radio sérieuse, gage de qualité, ça me fait penser aussi, on peut carrément en parler maintenant tout de suite, on est à la recherche d'une troisième personne pour cette année pour venir nous épauler de temps en temps.
Absolument, on a lancé un service civique pour la rentrée d'octobre avec Lara. C'est porté par Lara, un service civique pour créer des podcasts radio. Donc une personne qu'on va former pendant 8 mois, 26 heures par semaine. On va former aux techniques journalistiques, aux techniques de radio, de podcasts, pour faire des podcasts pendant toute l'année. Donc si vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas. Il y a l'offre qui est disponible sur le site des services civiques. Ou sinon, vous nous appelez directement, vous nous envoyez un mail sur redac@48.fr. fm.org et on reviendra vers vous avec toutes les informations.
Ça peut être un premier pas, un premier pied mis dans le monde de la radio pour peut-être après aller plus loin. On a vu qu'il y a eu des belles réussites sur la radio. On a eu l'exemple concret avec Adèle et tant d'autres. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ce service civique. On parle de formation, on parle de MI. L'un de nos partenaires autour de la table, donc c'est toi, Francis Charbonnel, avec tout ce que tu portes autour du BTS Communication Demande. On a aussi reçu, nous, on reçoit régulièrement des stagiaires, justement, et puis on vient aussi voir vos étudiants, vos étudiantes pour voir leur réalisation de communication. En quoi, pour toi, c'est important pour les jeunes de comprendre comment fonctionne un média comme le nôtre ?
Comprendre un média, c'est à la fois une ouverture d'esprit, parce qu'on est obligé de préparer les sujets, donc on est obligé d'aller au fond, on est obligé de réfléchir, on est obligé de créer, on est obligé de se dépasser, et ça c'est quelque chose qui, pour nous, est très porteur de sens. La mise en confiance, elle passe par la radio. Voilà, c'est quand je reçois Ludo et puis tous les noms que j'ai entendus, là, ça me fait rêver, parce que nostalgie. C'est partager des savoirs, des façons de faire, ces façons de faire fait que l'étudiant se sent en confiance. Et moi, c'est les retours que j'ai de ces étudiants. C'est-à-dire qu'au départ, c'est impossible. Quand on me présente le projet, c'est pas possible, on ne pourra pas faire, etc. Et en fin de compte, ça va jusqu'au bout. Et on voit qu'ils se sont préparés à prendre la parole, ils se sont entraînés avant. Et ça, c'est quelque chose de formidable. J'ai encore le souvenir, là, on avait fait pour les 100 ans de l'établissement une émission qui normalement devait durer une heure, je crois, ou 45 minutes. Et en fin de compte, elle a duré une heure et demie. Ils avaient tout monté. C'était vraiment formidable, c'était super.
Alors généralement, quand on fait de l'AMI, quand on va dans les établissements, on vient et on propose des projets à faire avec les élèves. Et ce qui est intéressant avec notre invité autour de cette table, c'est que ce sont trois personnes qui fourmillent d'idées. Et quand j'arrive, ben, c'est pas moi qui propose les idées. Que ce soit Francis qui dit « Ah, mais j'ai cette idée cette année, il faut faire des reportages, des fake news, que les élèves l'entendent et qu'ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'une fake news, qu'est-ce qu'un vrai reportage, qui décide. » Nelly, c'est pareil, hein, moi je suis le cours, on me dit « Ben voilà, on fait cette visite, on va partir sur ça, 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 ça. » Et Gilles, pareil, Gilles, il propose ses thèmes, et il y en a toujours des nouveaux chaque mois qui sont extraordinaires, et ça c'est aussi intéressant pour nous d'avoir des bénévoles comme ça quoi.
On l'a dit, Francis, tu parlais d'oralité, j'imagine que c'est important pour des futurs communicants, mais c'est aussi important pour chaque citoyen quand on est je sais pas, en repas de famille avec des amis, de savoir s'exprimer, exprimer son opinion. C'est aussi pour ça peut-être, Gilles, que tu as un amour de la radio. On disait aussi tout à l'heure que dans les vides radiophoniques on peut être pris, et on l'a dit, le but c'est si on ferme les yeux, on est en train de visiter le lieu patrimonial avec vous, Caroline et toi, Nelly. Qu'est-ce que t'aimes dans la radio, Gilles ?
Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était dans les années 70 sur Europe 1. J'ai eu l'occasion de faire quelques piges, j'étais très gosse sur le son. Il y avait Goliath, il y avait Yann Arribar, et il y avait Yann Egan, qui était la première émission qui se passait au drugstore, au pied des Champs-Élysées. Alors qu'une émission de radio, auparavant, c'était au minimum trois personnes. Il y avait le présentateur. Il y avait le technicien qui poussait les manettes, et il y avait celui qui balançait les disquettes de pub. Et d'un seul coup, ce Yann Egan, dans une bulle en verre, au milieu de toutes les nanas, le monde, la foule de drugstore, faisait une émission tout seul. Il parlait, il envoyait la musique, tout ça. C'était dans les années 70, et ça m'avait fasciné. Et je me suis dit, on peut faire de la radio autrement. Et entre autres, quand on parlait tout à l'heure, vous parliez de réinventer, de voir les choses, le côté social. Il y a quelque chose aussi qui me fascine. Aujourd'hui, les gens, les jeunes et les moins jeunes, tout le monde, se sent très stéréotypé dans une case. Ils sont faits pour ça, ils ont étudié ça, donc ils connaissent ça. Le reste, ils s'en foutent. Du moins, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils le connaissent pas. Et moi, je me dis, je vois pas de sujet qui ne puisse pas intéresser tout le monde. Et d'ailleurs, je prépare un sujet qui, de prime abord, paraît être un sujet philosophique. J'ai pas été scolarisé, ou très peu. Donc, je me suis pas gargarisé de philosophie. Mais je vais essayer d'opposer Socrate à l'intelligence artificielle. Parce que Socrate, qui ne se faisait pas payer quand il se baladait dans les rues d'Athènes, ne faisait que poser des questions, interroger les gens. Et ça les amenait à réfléchir. Aujourd'hui, l'IA, elle te donne une réponse à tout, tout de suite. Et donc, j'oppose le doute, qui m'habite, et que j'aimerais partager, aux certitudes qui sont aujourd'hui monnaie courante. Et dans l'émission que je suis en train de préparer, là, je suis dessus, je m'aperçois que, à vrai dire, les certitudes, ça monte, ça construit des murs, ça vous enferme, alors que le doute, ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres sur d'autres horizons. Et on a envie. Et quand j'ai touché ça du doigt, j'ai dit, il faut que je le partage, parce que c'est pas de la philo, c'est la vie, c'est le quotidien, ça peut être le quotidien de tout le monde.
Les doutes, les certitudes, Nelly, c'est aussi ce que tu as en tête avec Caroline. Quand vous imaginez une prochaine visite radiophonique, tu disais, vous êtes amené à réfléchir autrement la médiation culturelle, se dire, voilà, on va devoir exprimer un propos à quelqu'un qui n'a pas la vue, qui a juste le son pour comprendre. Ça se passe comment, justement, cette préparation d'émission, et qu'est-ce qui te plaît avec ce partenariat où tu as dit... C'était programmé pour quelques épisodes, et puis plusieurs mois, années après, il y a toujours ces visites radiophoniques.
Ben, la première chose, c'est que quand on a lancé l'idée des visites radiophoniques, moi j'arrivais un peu les mains dans les poches en me disant, bon ben voilà, je connais mon sujet, ça va être facile. Sauf qu'en fait, là j'ai Ludo qui me dit, non mais en fait, une émission, tout est écrit, Nelly, il faut tout écrire. Je fais, ah! Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour nous, au-delà du partenariat avec le CAE, parce que voilà, ces visites radiophoniques, ça nous a vraiment permis de développer notre partenariat entre nos structures. Et puis moi, je voulais vraiment qu'on mixe les approches, les regards. Donc je voulais pas être toute seule sur ces missions, voilà, sur ces visites. Et donc voilà, c'est un exercice quand même, c'est du travail. Parce qu'il faut tout écrire, il faut voilà, se mettre à la place du visiteur. Et heureusement qu'on a Ludo ou toi, Thomas, qui joue le rôle de visiteur, en fait, pour justement nous poser des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé, parce que quand on maîtrise plus ou moins son sujet, on ne pense pas à expliquer tout. Et donc c'est très enrichissant pour nous, pour la connaissance qu'on peut avoir du territoire et nos approches des différents monuments. Voilà.
Gilles ? Oui, quand j'entends dire j'étais parti juste pour une fois, puis ça a duré 6 ans, juste une petite anecdote, mais je l'ai déjà raconté sur 48FM. Je passais sur Montpellier et j'ai passé 25 hivers au Venezuela. Et ça me fatiguait d'entendre toujours les amis parisiens me dire « Oh, tu dois te régaler, toi qui aimes la musique, papa. » Alors que la musique au Venezuela, elle est aussi riche qu'en France. Il y a de la musique classique, il y a de la musique, il y a du rock, du jazz, il y a même une grande école de jazzman vénézuélien. Et un jour, un directeur d'antenne sur Divergence FM, Radio Montpellier-Rennes, qui est passé sur le DAB d'ailleurs, m'a dit « Dis-moi Gilles, est-ce que tu pourrais pas me faire un pilote pour expliquer ça, que c'est ridicule de parler de la musique sud-américaine, on ne parle pas de la musique européenne. La musique européenne, c'est Ferré, c'est Mozart, c'est les Beatles, et jamais ça nous viendrait à l'idée. » J'ai dit « Ok, si tu veux, je te fais un pilote et on fera une émission. » Et il a réussi à m'accrocher parce qu'après avoir fait l'émission, il m'a dit « Tu sais, je pense que j'ai beaucoup aimé, est-ce que tu ne pourrais pas en faire un mensuel ? Ça fait 21 ans. »
Ouais, voilà. Ça commence comme ça à chaque fois d'une petite anecdote. Justement, pour les anecdotes, on va arriver doucement à la fin de l'émission. On l'a dit, nous aussi on avait prévu une heure et puis ça fait presque une heure et demie qu'on discute, mais c'est souvent comme ça à 48FM. Et c'est justement, on a la chance de ne pas être coupé par des publicités obligatoires. C'est aussi la richesse d'une radio associative, c'est de prendre le temps quand il faut le prendre, et c'est le cas ici.
Francis, oui, radio associative qui ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Non,
ça, donc il faut la soutenir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est parce qu'on ne soutient pas les projets locaux que après on se retrouve sans rien. Donc quand il y a une radio qui donne la chance, l'opportunité à chacun de pouvoir faire des projets, il faut le soutenir.
Alors peut-être en tant que trésorier, je vous donne les différents modes de soutien, si vous voulez. Vous pouvez prendre votre adhésion, c'est possible, hein, c'est une association qui est ouverte à tous. Donc vous pouvez être adhérent, c'est une possibilité, c'est un premier niveau de soutien, et participer à la vie associative, hein, l'Assemblée Générale c'est cet après-midi. Il y a aussi l'association 48FM peut recevoir des dons, donc si vous avez envie et si vous voulez défiscaliser une partie de vos impôts, c'est possible, vous pouvez faire un don à 48FM. Si vous êtes organisateur d'événements, si vous êtes commerçant, etc., vous pouvez aussi prendre de la publicité. On a des forfaits de communication qui sont proposés, et puis on peut discuter de partenariats divers et variés pour faire des émissions, pour faire des plateaux, etc. Il y a un certain nombre de plateaux qui sont sur l'antenne de 48FM qui sont issus de partenariats financiers. On l'a évoqué avec les élus tout à l'heure. On se retrouvera la semaine prochaine au Forum des associations. C'est dans le cadre du partenariat avec la ville de Mende. Tout ça fait partie aussi des modes de soutien, effectivement, de la radio et de son activité avec ses différents aspects.
Puis en tant que salarié de la rédaction, je peux aussi dire que même un soutien qui n'est pas financier, mais parfois un petit j'aime, un partage sur nos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir.
Un petit commentaire.
Exactement.
N'hésitez pas, surtout, parce que des moments, c'est vrai que c'est un peu la difficulté aussi, hein, c'est que on n'a pas cette interactivité des réseaux sociaux direct quand on est à la radio, on n'a pas forcément le retour immédiat. Pour autant, n'hésitez pas à nous le faire si vous avez aimé une émission, si vous avez c'est aussi intéressant de savoir que vous aimez, que vous n'aimez pas, que en tous les cas que vous nous écoutez et que ce qui est dans le poste vous plaît ou pas.
Et si vous souhaitez faire aussi de la radio, la grille est ouverte, hein, bien sûr, vous pouvez venir nous voir aux 2 rues du Pléco Clos pour en discuter, ou toujours par mail redac@48fm.org. N'hésitez pas à venir vers nous.
Peut-être pour terminer avant ma conclusion, je vais être un peu au dépourvu, mais je sais que vous savez rebondir. Je voudrais que là, nos trois invités nous racontent un peu peut-être une anecdote
il y a la radio, un souvenir radiophonique peut-être de l'enfance ou même de l'adolescence, adulte. On l'a dit tout à l'heure, la radio, il y a une espèce de magie du média de proximité par excellence. Si je vous parle de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en premier, Gilles, par exemple ?
Oui, je me rappelle une fois, j'étais à Barquisimeto, une ville au Venezuela, dans un quartier, une région assez rurale, et j'avais fait une émission. Et l'émission, elle avait été préenregistrée une heure avant la diffusion. Et au moment de partir, je prends un taxi. Et dans le taxi, il était sur la fréquence de la radio et il entend l'émission. Et j'ai joué le jeu en lui disant, tiens, je pense qu'ils vont parler de ça. Et il parlait de ça dans le poste de son taxi. Et pendant trois quarts d'heure qu'il me ramenait à l'hôtel, je devançais tout ce que le locuteur allait dire dans la radio. Et quand il est arrivé à l'hôtel, il y avait plein de taxis qui l'attendaient. Et le taxi est sorti en disant « J'ai un sorcier dans mon... » Il sait à l'avance ce qui va être dit dans ma radio. Et j'ai vendu la mèche malgré tout parce que je voulais pas... Je lui ai dit « Non, c'est... » Je savais parce que c'est moi qui l'avais enregistré une heure auparavant, c'est pour ça. Et tout le monde s'est moqué de lui, ils m'ont offert une bière. Voilà, c'était une anecdote amusante.
Et oui, c'est des manières aussi de partager des moments entre humains avec ce genre d'anecdotes. Francis ou Nelly, je vous prends toujours aussi au dépourvu là-dessus, sur une anecdote radiophonique, un souvenir.
Alors, des souvenirs, je peux en avoir. Là, en réfléchissant comme ça, but en blanc, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que la radio faisait partie de mon quotidien. Il faisait partie de mon quotidien, parce que quand je montais chez ma grand-mère, il n'y a pas de télé. Et la seule chose que l'on écoutait, c'était la radio. Et je me rappelle encore de mon oncle, qui était agriculteur, et qui, lui, écoutait le bulletin météo. Et là, il fallait se taire. Parce que pour lui, c'était primordial. Et l'information lui venait quasiment en direct par une radio, c'était France Inter à l'époque, qu'il écoutait, parce que pour lui, c'était la référence. Et pour moi, pareil, le matin, j'avais des informations, mon père allumait la radio, et puis on écoutait France Inter, ça faisait partie du... Voilà, on déjeunait avec la radio, et c'était la radio. Et je peux dire que maintenant, moi, mes enfants, je suis père de 4 enfants, ben, c'est la radio, ça tourne autour de la radio et ils ont cette habitude-là parce que ben, moi je reproduis fidèlement le matin la radio, mais maintenant elle se porte aussi sur l'autoradio et elle se porte maintenant dans les podcasts et j'ai ma fille qui écoute des podcasts et qui quelque part enrichit son savoir culturel à travers des histoires, des moments courts, etc. Et je me suis aperçu que, là maintenant, en réfléchissant rapidement, que la radio s'est adaptée à l'individu, à son mode de vie et à la façon de fonctionner. C'est-à-dire de la voiture où il n'y avait pas de d'autoradio à l'autoradio, et puis maintenant, quasiment avoir la radio en ubiquité, c'est-à-dire sur tous les supports à n'importe quel moment, et avec des formats longs, courts, etc., et qui s'adaptent à un public adapté. Voilà.
Oui, bah, et nous d'ailleurs aussi on s'adaptait, puis quand on n'est pas en direct pour écouter votre émission favorite sur 48FM, vous pouvez la retrouver sur le site 48FM.org et pouvoir l'écouter, s'arrêter, la mettre sur votre téléphone. On peut aussi le faire chez nous, tout ça. Nelly, anecdote, alors peut-être des vies radiophoniques ou même, je sais pas, est-ce qu'il y a un événement historique que tu as entendu à la radio, tu t'en souviens que c'était par la radio
L'appel du général de Gaulle, Nelly.
Ah oui, je pense à ça, bien sûr. Mais,
franchement, vous allez être déçus, mais là, de but en blanc, le souvenir que j'ai de la radio, c'est j'étais en CM2, j'avais donc 9 ans, j'imagine, à l'époque. C'était mon anniversaire et à l'époque, il y avait une radio ici sur laquelle on pouvait faire des dédicaces. Et donc, ma meilleure amie de l'époque, donc Émilie Bringer, si tu nous écoutes, m'avait donc dédicacé Rock Voisine. Voilà, Hélène qui était donc ma chanson préférée de l'époque.
On parlait voilà. De radio de proximité, c'en voilà. Est un exemple. Nelly Lafont, donc, du Pays d'Art et d'Histoire, merci d'avoir répondu à l'invitation pour ces 20 ans. Gilles Bègue également, qu'on peut retrouver et te réécouter tous les mois sur Orinoco, sur l'émission Orinoco sur 48FM entre autres. Puis Francis Charbonnel, directeur du BTS Communication.
Oula, attention, pas directeur.
Responsable.
T'as gagné en galon, c'est bien ça.
Non, du tout.
Responsable du BTS Communication du lycée Notre-Dame de Mende, avec qui on a le bonheur de collaborer. Merci à vous trois d'être venus. C'est déjà la fin de cette émission exceptionnelle en direct du marché de Mende. Pour célébrer ensemble les 20 ans de 48FM, Merci également Guillaume d'avoir été là. Mais Guillaume, il fait tellement partie de l'équipe que j'oublie parfois de le présenter en tant qu'invité. Mais Guillaume, animateur également, on ne l'a pas dit, mais animateur, tu peux.
De la sélection du Festival Lyon, on se retrouve à partir du mois d'octobre avec Olivier pour vous parler de chansons françaises, francophones, de la nouvelle scène. Voilà, tous les vendredis à 19h et le dimanche à 21h. Avec des lives, avec des choses qu'on a fait cet été au festivalier, tous les deux, effectivement. Donc voilà, plein de choses dans cette année. Et puis voilà, effectivement, j'étais un petit peu plus à l'antenne autrefois avec des belles émissions de bande, des beaux souvenirs aussi de radio avec Caroline, avec Adeline, avec Aurélie, avec Anne-Marie. Voilà. On a fait des belles bêtises, enfin voilà, des belles chroniques bien rigolotes.
On s'est bien marré.
Ouais. Ah oui, ça vraiment. Mais bon, voilà, c'est fini. Mais bon, en tous les cas, c'est toujours avec Olivier un plaisir de vous préparer des émissions chaque semaine.
Des émissions toujours aussi retrouvées en replay sur notre site. Merci à toi pour ton engagement. Merci à tous nos invités d'être venus témoigner leur soutien à la radio. Merci également à la ville de Mende d'avoir rendu possible l'organisation de ce plateau en extérieur. Si vous voulez poursuivre cette journée anniversaire, rendez-vous à 16h pour l'AG, l'Assemblée Générale de la Radio, qui aura lieu au Café Associatif de Marvejols, le Sillon-Lauzet. Si jamais, on l'a dit avec Ludovic, hein, si vous avez une émission, une idée, et puis à partir de 18h, toujours au Sillon-Lauzet, la soirée d'anniversaire qui débutera par un blind test en équipe. N'hésitez pas à venir vous inscrire, un blind test pas comme les autres. Et puis on enchaînera avec de la musique animée par nos animateurs et DJ résidents sur tout style de musique. On va pouvoir venir danser, chanter ce soir au Sillon-Lauzet avec un repas partagé et buvette sur place. Merci également Ludovic pour la technique et de la co-animation avec moi aujourd'hui.
Merci à toi Thomas.
Et puis on va encore souhaiter 20 ans de plus minimum à 48 FM d'existence et une bonne fin de matinée sur 48 FM.
Bon anniversaire.
Salut.
Bon anniversaire 48 FM.